RFI, 10h à Paris, 8h en temps universel. Lors d'un nouveau journal avec Jeanne Bartoli.
Et bonjour à tous. Dans ce journal, l'escalade militaire entre Israël et l'Iran se poursuit. L'armée iranienne a lancé hier soir et cette nuit 150 missiles sur le territoire israélien. En parallèle, les attaques israéliennes se poursuivent sur le sol iranien. L'aéroport Mehrabad de Téhéran a été touché. L'Iran qui annonce ce matin la mort de deux de ses généraux en fait le point avec notre correspondant en Iran. Et puis reportage au sein de la communauté iranienne de Los Angeles, où l'on suit de près la situation. Dans ce journal aussi, la Chine se dit prête à discuter d'une suppression des droits de douane pour 53 pays africains. Analyse d'un acte politique dans ce journal. Et puis Olivier Faure, face à la définition de la stratégie du Parti socialiste après sa réélection au 81e congrès du PS qui s'achève demain. Une nuit de bombardements iraniens en Israël. Le régime iranien a donc lancé sa riposte hier soir. 150 missiles ont été tirés vers le territoire israélien. Certains ont atteint leur cible, notamment à Tel Aviv, où d'importants dégâts sont rapportés. Il y a au moins 3 morts, des dizaines de blessés dans ces bombardements qui font suite aux attaques israéliennes en Iran contre des bases militaires et des infrastructures nucléaires iraniennes. Des frappes israéliennes qui se sont poursuivies cette nuit. Le point sur la situation ce matin à Téhéran, avec notre correspondant Siavosh Ghazi.
Des avions israéliens ont visé ce matin l'aéroport national de Mehrabad, situé dans le sud de Téhéran. Un important incendie s'est déclaré dans le quartier de l'aéroport, qui héberge également des avions de combat du pays. D'autres quartiers de la capitale ont également été visés, sans que l'on sache précisément les cibles attaquées. Selon les médias iraniens, la ville d'Ispahan, qui abrite des sites nucléaires et militaires, a de nouveau été frappée à l'aube. Déjà hier soir, l'armée israélienne avait mené une série d'attaques contre Téhéran, Karaj, mais aussi Qom, notamment contre le site d'enregistrement de Fordou ou encore à Ispahan, où se trouvent de nombreux sites nucléaires et militaires. Ces nouvelles attaques sont intervenues alors qu'un responsable iranien a déclaré que la riposte iranienne allait se durcir contre Israël. Selon les médias iraniens, des centaines de missiles ont été lancés contre Israël en 3 salves hier soir, alors que le numéro iranien a déclaré dans un message diffusé par la télévision d'État que les forces armées iraniennes allaient riposter contre Israël et donner des coups sévères à l'État hébreu. Les deux pays s'installent désormais dans une guerre ouverte qui peut durer encore pendant plusieurs jours. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Et ce matin, l'armée israélienne dit frapper des dizaines de lanceurs de missiles en Iran. Les médias d'État iraniens rapportent, eux, la mort de 2 généraux tués dans une frappe israélienne. Côté bilan, on le disait, 3 morts et des dizaines de blessés en Israël. 78 morts, plus de 320 blessés, en large majorité des civils rapportés en Iran. Cette escalade intervient alors que devait avoir lieu demain à Oman une nouvelle session de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire de Téhéran. La participation de l'Iran aux discussions avec Washington est incertaine, font savoir ce matin les médias d'État iraniens. Le conflit entre l'Iran et Israël qui s'intensifie, la situation est suivie de près par la diaspora iranienne un peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis sur la côte ouest où vit la plus importante communauté iranienne des États-Unis. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place, Abla Junaidi et Bertrand Éclair.
Appréhension, soulagement, tristesse pour les civils touchés. Le sentiment des habitants est mitigé à Pershing Square, l'un des quartiers iraniens américains de Los Angeles. Tony, qui souhaite garder l'anonymat, tient une des nombreuses boutiques du quartier.
Vous savez, Israël fait exactement pareil qu'au Liban avec le Hezbollah. En éliminant les chefs, l'organisation s'est effondrée, comme si on enlevait la tête à un serpent.
Comme Tony, des générations d'exilés vivent ici, espérant à terme la chute de la République islamique. Rosbeh Farhanipour a été à la tête du mouvement de protestation étudiante de 1999. Aujourd'hui, il tient un restaurant. Il ne croit pas que le changement viendra d'une intervention extérieure.
Je ne suis plus à la tête du mouvement de protestation en Iran, mais je suis la situation. Je donne des conseils aux gens en matière de désobéissance civile pour planifier leurs actions. C'est cela qui amènera le changement. C'est comme ça que nous avions fait trembler le régime. C'est ce dont je suis le plus fier. Le 8 juillet 1999, lorsque le leader suprême Ali Khamenei avait pleuré à la télévision. C'était grâce à nous.
Pour l'heure, ces Iraniens de la diaspora suivent anxieusement sur leur téléphone les dernières nouvelles venues d'Iran. Ablajounaïdi, Bertrand Éclair, Los Angeles, RFI.
Los Angeles, où des marines ont été déployées, ces troupes d'élite d'ordinaire envoyées à l'étranger ont été dépêchées par Donald Trump aux côtés de la garde nationale, officiellement pour rétablir l'ordre à la veille aujourd'hui d'une journée de manifestation à travers les États-Unis pour protester contre la politique du président américain sur l'immigration et plus généralement contre sa politique jugée de plus en plus autoritaire. C'est un geste historique de la Chine. Pékin se dit prêt à discuter d'une suppression des droits de douane pour 53 pays africains. Jusqu'alors, seuls 33 pays bénéficiaient de ces exemptions totales. Le gouvernement chinois n'a pas précisé quand la mesure entrerait en vigueur. C'est en tout cas un important coup géostratégique. Écoutez Thierry Perrault, chercheur et spécialiste de la présence chinoise en Afrique.
Personnellement, je considère que c'est un acte politique. C'est un effet d'annonce, un très bel effet d'annonce qui va, dirons-nous, entre autres à l'encontre des déclarations de Donald Trump. Et je pense que l'élément le plus important, c'est beaucoup plus dans cet affrontement entre la Chine et les États-Unis. Très objectivement, ça fait 3% du commerce de la Chine, toute l'Afrique. Ce qui fait que finalement, c'est sur une portion très minime que les choses peuvent jouer. Et ça ne veut pas dire pour autant que ça va forcément favoriser les ventes de produits africains à destination de la Chine. Que l'on regarde le cuivre, que l'on regarde les matières premières plus rares ou que l'on regarde le pétrole, la Chine s'est créée une palette de fournisseurs et parmi ces fournisseurs, les pays africains comptent très peu. Et dans la mesure où ces achats chinois de matières premières ne sont pas décidés par les pays africains mais par la Chine, il est évident que les pays africains pourront très difficilement utiliser l'occasion qui semblerait s'offrir à eux.
Et le chercheur Thierry Perrault, joint par Alexis Bédu. L'actualité, c'est aussi la Russie qui annonce qu'elle va construire la première centrale nucléaire du Kazakhstan. Le géant russe Rosatom sera le principal constructeur du site, font savoir les autorités kazakhes. Le pays est le premier producteur mondial d'uranium. Ce chantier était convoité notamment par la France, la Chine ou encore la Corée du Sud. En Inde, le crash du Boeing 787 Air India à Ahmedabad a fait au moins 279 morts. Le bilan a été revu à la hausse. Il faisait état hier de 265 victimes, passagers, membres d'équipage ou victimes tuées au sol lors du crash. L'une des boîtes noires de l'appareil a elle été retrouvée hier. Elle devrait éclairer les circonstances de la catastrophe. Les cornes de brune ont résonné hier à Nice à la clôture du sommet de l'ONU sur les océans, marqué par une avancée vers une meilleure protection de la haute mer avec la ratification d'un traité signé par pas moins de 50 pays destiné à ce traité à mieux protéger les eaux internationales. Cette troisième conférence des Nations Unies sur les océans qui a toutefois échoué à lever des fonds pour les pays pauvres et a fait l'impasse sur la question centrale des énergies fossiles. Dossier complet à retrouver sur RFI. Toujours en France, il a été élu de justesse, mais réélu pour la quatrième fois. C'est donc de nouveau dans le costume de premier secrétaire qu'Olivier Faure va clore demain le 81e congrès du Parti Socialiste Français. Les deux dernières années ont été marquées par une profonde division du PS. Olivier Faure qui va donc devoir retisser les liens, ce qui passe par une stratégie commune à tous les socialistes. Et ce n'est pas gagné, Aurélien de Vernois.
Quelle dose de coopération avec la France Insoumise le Parti Socialiste peut-il accepter? C'est le cœur du débat qui a agité la campagne pour le poste de premier secrétaire et qui va de nouveau alimenter les débats à Nancy ce week-end. Pour l'opposition à Olivier Faure, menée par le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, la réponse est simple, pas d'accord, pas de contact. Les Insoumis, déjà guère fréquentables lors de la première réunion de la gauche en 2022, sont carrément devenus des repoussoirs, des machines à perdre, estiment même les antiforistes, s'appuyant sur les récents revers électoraux de l'AFI. Mais de cette excommunication, Olivier Faure n'en veut pas. Pragmatique, le premier secrétaire ne veut pas hypothéquer les chances de conserver des mairies socialistes dans des zones à fort vote insoumis, comme Lille ou Marseille. Quant à la présidentielle, le débat est déjà tranché, selon lui, Jean-Luc Mélenchon ne souhaitant pas participer à la désignation d'un candidat unique de la gauche. Le risque est donc grand que la divergence stratégique demeure à l'issue du congrès, à moins qu'une place plus grande soit laissée à l'opposition au sein de la direction du parti. De quoi calmer, au moins provisoirement, les mécontents.
Aurélien de Vernois du service politique d'RFI. Enfin, ce sera la nuit prochaine le début du mondial des clubs de football organisé aux États-Unis et qui rassemble 32 équipes de tous les continents. Le match d'ouverture Inter Miami face à Al Ahly du Caire. 10h10 à Paris, vous restez à l'écoute de la Radio Mondiale.